BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Margot Haddad.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Hebdo.com. Au programme de cette émission, la nouvelle campagne d'Optique 2000 fait son entrée sur vos écrans. Adieu le fameux gimmick de Johnny Hallyday pour faire place à l'expertise des opticiens. On sera en plateau avec Benoît Jaubert, le directeur général d'Optique 2000, et Gilles Masson d'Australigade. Quelle place pour un nouveau réseau social? Une plateforme spécifique à la génération Z débarque sur la toile. Elle s'appelle Youhou et on sera dans un instant avec les deux cofondatrices. Voilà le programme, c'est parti.
Hebdo.com sur BFM Business.
Et cette semaine, je suis seulement avec Eric Jaoui. Bonjour Eric.
Bonjour Margot.
Fondateur de ZionSay. Tout va bien. Alors j'ai vu que vous aviez glissé des petites lunettes dans votre poche interne. Donc vous portez des lunettes.
Ah, moi je suis myope depuis que j'ai 8 ans.
Et vous êtes client d'Optique 2000 ou pas?
Je suis myope depuis que j'ai 8 ans et là je me suis fait opérer donc je suis client de plus personne.
Client de plus personne, bah voilà. Mais on va parler que tout de même ce qui nous fait choisir une marque plutôt qu'une autre, une marque de lunettes, d'opticien.
Bien
et
sûr.
On va regarder ça tout de suite. C'est parti pour le Focus.com.
BFM Business, Hebdo.com, le Focus.com.
Et je suis en plateau avec Benoît Jaubert, le directeur général d'Optique 2000. Bonjour.
Bonjour Margot.
Gilles Masson, vous êtes d'Australigade, donc vous avez mené cette campagne pour Optique 2000. Bonjour, enchanté. Alors, je vais vous poser une première question qui me semble normale. C'est pourquoi changer de campagne après avoir eu une campagne aussi forte avec celle de Johnny Hallyday?
Eh bien, parce que nous avons décidé d'évoluer, de passer à autre chose, mais surtout de remettre nos opticiens, leur savoir-faire et leur talent au centre de notre exposition médiatique.
Vous avez eu des retours pour l'instant suite à cette campagne? Elle a été publiée, enfin, elle
cette
est sortie
a été
le 19 juin.
Tout à fait, elle a été diffusée pour la première fois dimanche soir. D'abord, on a partagé cette campagne avec tous nos opticiens. Vous savez que nous sommes du coopératif, donc il y a un processus de décision qui est très démocratique chez nous. Elle a été partagée avec tous nos associés qui ont adopter cette campagne. On a même eu une standing ovation ce jour-là. Et aujourd'hui, j'entends déjà nos opticiens me dire que toutes les générations viennent en magasin nous dire que c'est bien, ça sonne bien et ça leur plaît beaucoup. Et puis même sur les réseaux sociaux, on commence à faire du like. Donc, bonne nouvelle.
Ça, c'est important, ça.
Ah oui, c'est très important aujourd'hui. Tout à fait.
Mais d'un côté un peu plus, on va dire, de la réalisation, de la créativité, vous avez choisi de donner un peu une note un peu plus scientifique, un peu plus experte à cette campagne. Pourquoi vous avez choisi ça?
En fait, on a défini notre opticien comme un coach de la santé visuelle de ses patients et on a défini 5 rôles de coach. Il y a le coach sport, le coach expert, le coach tendance, le coach facilitateur et le coach engagé. Et donc, ça nous permet, nous, de segmenter et d'apporter à chacun de ces rôles-là une image, une identification de notre opticien. Et
c'est des critères que les clients viennent chercher, ça?
Oui, exactement.
Le côté tendance, le côté responsable
Tout à fait. Facilitateur, on retrouve dans le film, par exemple, quelqu'un qui va à domicile, et c'est un service qu'on a lancé il y a 2 ans, et qui fait de très bons scores aujourd'hui, et qu'on a voulu vraiment illustrer aux yeux des Français, en sortant un peu des codes et en changeant, justement, en faisant pas comme les autres. Et je pense qu'on a bien réussi.
C'est vrai que c'est une campagne qui est hyper rassurante, moi j'ai trouvé.
Oui.
Je me suis dit, avec l'avènement de toutes ces marques de lunettes qui sont en train de sortir de partout, est-ce que le client a besoin d'être rassurant avec Optique 2000 qui est là depuis des années quelque part?
Le client a besoin de voir qu'il a face à lui des experts. Aujourd'hui, vous avez quand même un phénomène en France et dans le monde entier, c'est que les gens vieillissent. Donc il y a de plus en plus besoin de gens qui répondent à des problématiques de vision. Les jeunes, avec le temps sur les écrans, ont des problèmes de myopie de plus en plus jeunes. Mmh. Et donc vous avez en gros un besoin d'avoir une vision qui est soignée de plus en plus fort. Et vous avez face à ça des ophtalmologistes qui sont là, mais qui sont peut-être moins disponibles, et des opticiens qui sont aujourd'hui un peu coincés entre le rôle des ophtalmologistes et des mutuelles, qui ont des rôles importants sur le financement. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est revaloriser le rôle de l'opticien, parce qu'il y a une proximité géographique extrêmement forte avec Optique 2000 qui est partout sur le territoire, mais on voulait faire monter la proximité relationnelle. Donc oui, les gens ont besoin d'être rassurés, se dire qu'il y a des besoins de santé visuelle au quotidien que les opticiens peuvent remplir.
Justement, pour comprendre un peu plus de quoi on parle, on va regarder un extrait et on va écouter un extrait de cette campagne.
Yeah.
Et comment justement vous avez réfléchi à cette réalisation ensemble? Comment vous avez collaboré là-dessus?
Alors nous, on a fait quelque chose de très classique, c'est qu'on a défini un territoire de marque, celui sur lequel nous voulions aller à partir de cette année. Et on a fait un appel d'offres. Donc cet appel d'offres, toutes nos agences, plusieurs agences ont répondu, dont celle avec laquelle nous travaillons d'ailleurs. Et on a soumis un vrai concours et on a eu des réponses extrêmement qualitatives des uns et des autres. Et c'est Australigal qui a gagné. Donc on en est ravis parce qu'ils ont vraiment su répondre à la transcription justement de notre territoire de marque en termes créatifs.
Ils avaient quoi exactement ils ont répondu à ça?
Déjà, vous voyez, par l'écosystème de communication, vous voyez, quand vous êtes briefé sur coach, d'abord ça vous surprend, puis vous rentrez dans la problématique et vous dites c'est vrai qu'il y a de plus en plus de besoins d'accompagnement de vision, mais que les gens ne sont pas forcément conscients que les opticiens peuvent faire ça. Et quand vous êtes briefé sur coach, vous allez jusqu'au bout du raisonnement. Et donc pour le coup, en quoi? Par exemple, on a pris la musique de Rocky.
On allait justement en parler justement.
Exactement, pourquoi est-ce que vous avez choisi Eye of the Tiger comme musique?
Déjà, ça s'appelle Eyes of the Tiger, si vous voyez ce que je veux dire, pour Optique 2000, donc c'est pas complètement innocent. Et puis tout simplement, parce que quand vous êtes sur un brief de coach, ça veut dire que vous êtes sur un brief d'accompagnement. Et qui mieux que Rocky est transgénérationnel, connu de tout le monde, et sur l'accompagnement. C'est-à-dire que Rocky,
c'est un peu le nouveau Johnny Hallyday, quoi, Eye of the Tiger.
Exactement, sauf que Johnny Hallyday cachait un petit peu la marque à force de. Les gens continuent à dire Johnny Hallyday, ça fait 10 ans que Johnny ne chantait plus.
C'est très fort quand même.
C'était une famille. Mais bien sûr, sauf qu'on ne voulait pas que Johnny continue à être plus important que la marque. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut, derrière Optique 2000, pouvoir mettre des verbatims précis. Et ce qu'on fait aujourd'hui avec le raisonnement de coach et Rocky, c'est de transformer un jingle qui a du sens. Maintenant, ça a du sens.
Alors, justement, on n'entend plus cette fameuse voix de Johnny, le fameux « vous voulez faire » Erin Jaoui.
Je ne vais pas m'aventurer, Margot, c'est gentil.
Dommage. J'ai pensé, je me suis dit, il va le faire, il risque de le faire en plateau.
J'ai failli le faire, mais bon.
C'est dommage.
Mais est-ce que vous aviez un peu peur d'être toujours attaché à cette identité?
C'était pas de la peur. On savait que ça allait être compliqué d'assumer cette transition. Donc, on a voulu justement donner la place à celui qui oserait le plus. Et Australigad a osé. La proposition musicale qu'ils nous font et l'intention créative qui est derrière, c'est eux qui sont allés les plus loin, en fait. Et le conseil d'administration d'Optique 2000, qui est composé de 10 opticiens, a très bien réagi à cette proposition. Et on a tous collectivement dit, oui, c'est vraiment là qu'il faut qu'on aille. Parce que si vous voulez, on n'oubliera jamais Johnny, faut que les choses soient claires. Mais si on veut vraiment recréer quelque chose de très marquant pour le public français, il faut aller justement il faut dépasser ses limites. Et Eye of the Tiger et la façon dont le film est tourné dépasse ses limites et nous va bien.
Alors la campagne s'appelle On va se revoir. Oui. Pourquoi?
Tout simplement parce que d'abord on s'est dit qu'il y avait une signature institutionnelle de Optique 2000, qui a une nouvelle vision de la vie, qui est sur toutes leurs boutiques. Et on s'est dit très simplement, ça fait son travail. Ça fait le travail de dire pourquoi j'existe. On ne veut pas modifier cette signature, qui reste une signature d'enseigne, au sens littéral du terme. Par contre, on s'est dit, il faut une signature publicitaire qui soit populaire, qui soit incitative, ce qu'on appelle nous dans notre verbiage le call to action. Et quand vous êtes sur une stratégie où on dit la santé visuelle se joue au quotidien, le on va se revoir, il tombe très logiquement. Donc c'est populaire, c'est incitatif, c'est call to action, et ça parle aux gens. Et donc on dit, on peut s'occuper de vos yeux, vous avez tous des problèmes.
Ça rassure aussi un peu.
C'est rassurant.
On revient à ce côté rassurant.
Et je crois qu'il faut insister, on a plus de 1200 magasins. On est partout, on est en proximité de tout le monde, donc ça déjà c'est rassurant. Et en plus, il y a un vrai enjeu de fidélité à notre enseigne, et il se traduit très bien par cette signature.
Justement, vous êtes très présent donc, sur le territoire. D'un point de vue digital, c'est quoi votre présence? Est-ce qu'il y a un dispositif digital? Comment est-ce que ça se passe?
Alors nous, on a décidé bien entendu de miser sur la télé pour installer ce sujet, mais on a réaugmenté assez largement nos investissements digitaux tout au long de l'année, puisqu'en fait on va travailler par verticale, c'est-à-dire que on aura des temps forts dans l'année où on va prendre le film d'un coach et qui va être décliné sur des offres commerciales et des reprises sur le digital de l'ensemble de la verticale.
J'ai été très surpris par exemple de ne pas vous trouver sur TikTok.
Pourtant, on vient de faire sur TikTok une vraie première. On a mis en avant, vous connaissez la Ray-Ban Stories, la fameuse lunette connectée, qu'on a un influenceur l'a mise en avant avec nous sur TikTok, et on a eu énormément de likes. On a été très satisfait de ce retour.
Vous c'est avez mal cherché, Eric Jaoui.
J'ai cherché au clic de mille, j'ai trouvé 10 comptes.
Mal pas regardé,
et on y reviendra. Et on
a décidé d'y revenir. Pour compléter ce que dit Benoît, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement, je pense qu'en en termes d'écosystème digital, on a fait quelque chose de tout à fait efficace et assez classique. Ce que je trouve très intéressant chez Optique 2000, c'est la façon dont ils gèrent le digital. C'est-à-dire comme source de trafic, ils s'en servent énormément. Et dans un proche futur, ils le font déjà sur la téléconsultation. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de changer la façon dont un opticien demain pourra s'occuper d'un client.
Bah, merci beaucoup à tous les deux, c'était fascinant. On vous souhaite beaucoup de succès, en tous les cas, avec cette nouvelle campagne.
Merci beaucoup. Nous aussi, on va se revoir.
Voilà, nous aussi, on va se revoir. Et d'ailleurs, on va revoir tout de suite Julien Casqui, parce que c'est l'heure de la chronique TechCom.
BFM Business, HebdoCom, TechCom.
Bonjour Julien.
Bonjour Margot.
Alors cette semaine a eu lieu le Cannes Lions à Cannes, hein, comme ça s'appelle. Après deux éditions en digital, c'est un retour au présentiel avec l'offensive des géants de la tech, c'est bien ça ?
Tout à fait. Et celui qui a mis le paquet cette année, eh bien, c'est Amazon. Amazon, c'est pas la première fois qu'il vient au Cannes Lions, mais là, il a carrément privatisé le vieux port de Cannes, en tout cas une partie du vieux port de Cannes. Alors que normalement, bah, Meta, Spotify, eux, ils ont loué un stand ou une partie de la plage. Il a appelé ça le Amazon Port, au programme des concerts, des conférences, des soirées, des ateliers et même des salles de yoga. Il faut dire qu'Amazon, eh bien, est devenu un géant de la publicité, le troisième acteur de la publicité digitale derrière Google et Meta. Il génère désormais 30 milliards de dollars dans la publicité en ligne grâce au retail media. Vous savez, le retail media, c'est les bannières publicitaires que vous voyez sur Amazon. À Cannes, il a aussi annoncé deux nouveaux partenariats avec Omnicom, le géant mondial de la publicité, hein, sur l'analyse des données de ses utilisateurs, et avec la plateforme Trade Desk pour faciliter son système de publicité programmatique.
Et d'autres acteurs de la tech ont également fait leur apparition, Julien.
Et c'est le cas notamment de TikTok, qui lui aussi est devenu un acteur incontournable de la publicité digitale. Son porte-parole, Blake Chandley, a affirmé que la plateforme, eh bien, avait désormais plusieurs centaines de milliers d'annonceurs et qu'il visait tout simplement, eh bien, des millions maintenant d'annonceurs. Il a aussi confirmé que TikTok souffrait du système de protection de la vie privée et des données d'Apple. Il y aura aussi des publicités ciblées sur la plateforme et une fonction de live shopping va être lancé. Et puis la star de ce Cannes Lions, eh bien, c'est le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, qui a fait le déplacement. Il s'est vu remettre le prix de la personnalité de l'année dans l'entertainment. La plateforme, vous le savez, va lancer une offre moins chère pour ses abonnés, mais avec de la publicité. Les abonnés aujourd'hui de Netflix sont plus tolérants à regarder des publicités sur la plateforme. C'est ce qu'il a dit à cet événement. Et selon CNBC, Netflix pourrait nouer des partenariats avec NBC Universal et Google, eh bien, pour vendre son espace publicitaire.
Et enfin, les vétérans de la publicité en ligne étaient également là, mais un peu plus sobrement tout de même.
Eh oui, tout à fait. Meta, qui a quelques difficultés sur le marché publicitaire, eh bien, a réuni sur sa plage des annonceurs, des agences médias autour du métaverse. L'idée, eh bien, c'est de leur expliquer un peu les ambitions de Meta dans le métaverse, qui peut être encore un peu flou pour certains annonceurs, et aussi de présenter les dernières innovations dans le métaverse, notamment avec les lunettes de réalité augmentée Ray-Ban. Twitter aussi était là et il a annoncé lui aussi un partenariat avec Shopify, cette plateforme de e-commerce, pour permettre aux commerçants, eh bien, de mieux exposer leurs produits sur le réseau social.
Merci beaucoup Julien, et on passe tout de suite au JT de la com avec Rebecca Plan-Lelouch.
BFM Business, HebdoCom, le JT de la com.
Et bonjour Rebecca.
Bonjour Margot.
Alors on parle toujours des Cannes Lions ensemble, et cette fois-ci on parle de l'activiste Greenpeace qui a fait irruption sur la scène du Palais des Festivals.
Oui, il a interrompu la cérémonie d'ouverture en arrivant sur la scène du Palais avec un trophée dans la main. C'est un award qu'il avait obtenu quelques années plus tôt lorsqu'il était lui-même publiciste, et il a souhaité dénoncer certaines agences de pub qui travaillent pour l'industrie des fossiles en déployant une banderole avec écrit « No award on a dead planet », pas d'award sur une planète qui meurt. Et il a ensuite été sorti par les services de sécurité. Dans son dernier rapport, le GIEC a pour la première fois pointé du doigt le rôle de la pub dans la crise climatique, les qualifiant d'obstacle à l'action climatique. Selon l'organisme, les entreprises des biens et services fossiles détournent l'attention des consommateurs de l'impact climatique désastreux sur leurs activités.
Et lundi dernier, Dentsu International, le géant de la pub japonais, a annoncé à l'occasion des Cannes Lions le lancement de Dentsu Creative.
Il s'agit de l'unique réseau mondial de création de Dentsu au service de ses clients à l'échelle internationale. Ce nouveau réseau réunit Ces agences créatives Dentsu, MB et Isobar et s'inscrit dans une stratégie plus globale pour simplifier l'expérience client et transformer les marques et les entreprises. Le but, permettre de créer la culture, changer la société et inventer le futur selon Dentsu. Dentsu Creative comptera 9000 experts de la création qui seront répartis dans 46 marchés et tout ça sera coordonné par Fred Levron.
Et puis mardi dernier, l'autorité de la concurrence a mis fin à la procédure entre les médias français et Google dans le dossier des droits voisins.
Oui, l'autorité de la concurrence a accepté les engagements proposés par Google. Elle a annoncé qu'ils sont de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence exprimées. Ce contentieux avait été ouvert en 2019 par le syndicat des éditeurs de la presse magazine, l'Alliance de la presse d'information générale et l'AFP. Ils réclamaient tous que Google les rémunère au titre des droits voisins dans le cadre de l'utilisation de leur contenu. Et en juillet de l'année dernière, le géant américain avait été condamné à 500 millions d'euros d'amende pour ne pas avoir négocié de bonne foi avec les éditeurs de presse. Cette condamnation devient donc définitive. Google s'est engagé à retirer son appel.
Et on y était la semaine dernière, Rebecca. On parle à nouveau de VivaTech. Les objectifs ont été atteints pour cette édition 2022 avec un retour en présentiel au Palais des Expositions de la Porte de Versailles.
91 000 visiteurs ont pu découvrir toutes les innovations et assister aux conférences en live. L'audience digitale, elle, s'élève à 300 000 visiteurs et la chaîne VivaTech News a plus de 4,3 millions, 400 millions de personnes touchées et plus de 3 milliards de vues sur les réseaux. Une très bonne dimension internationale aussi de VivaTech avec 30 pays et 146 nationalités touchées. Il y avait plus de 2000 exposants, 700 fonds d'investissement se sont rencontrés et plus de 160 000 connexions business ont pu être établies.
Merci beaucoup Rebecca, on pense à Julie Ranty qui a fait sa dernière édition cette année. Allez, tout de suite, c'est l'heure du décryptage.
BFM Business, Hebdo.com, décryptage.
Et on parle tout de suite d'un nouveau réseau social avec Ariane Lambropoulos et Anna Bontemps. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes toutes les deux les cofondatrices de ce nouveau réseau social Youhoo. Ma première question, elle est simple, c'est pourquoi créer un nouveau réseau social alors qu'il y en a déjà tellement ?
Oui, bon, c'est une très bonne question, Margot. D'ailleurs, merci de nous recevoir. On est très, très heureuse d'être ici. Donc, pourquoi créer un réseau social, une alternative aux réseaux sociaux ? Bon, il y a plusieurs constats qui sont très factuels que je peux énumérer, évoquer ici. Donc, le premier, c'est que les réseaux sociaux sont largement faits ou de plus en plus faits pour des entertainers, des acteurs du divertissement. Et monsieur et madame tout le monde n'a plus vraiment sa place sur les réseaux sociaux actuels. Première chose. Deuxième chose, on est très basé, axé sur l'image et sur l'individualité sur les réseaux sociaux actuels, ce qui impacte relativement négativement la santé mentale des utilisateurs et potentiellement encore plus chez les jeunes qui décident même au service de leur bien-être personnel de désinstaller ces applications. Troisième chose, on a un vrai problème de manque d'authenticité via potentiellement la commercialisation de l'influence qui devient de plus en plus biaisée et les marques qui se déconnectent de leurs consommateurs. Et enfin, on a un problème aussi au niveau des news qu'on consomme sur les réseaux sociaux qui ne représentent pas forcément toujours la vie réelle. On ne sait plus vraiment comment s'informer, comment décrypter les news, les vraies, les fausses. Et on a souvent tendance à être aussi enfermé dans des bulles d'informations qui nourrissent un peu les extrêmes. Donc voilà pourquoi aussi on s'est dit qu'il y avait potentiellement le début d'une nouvelle ère. Et potentiellement, cette nouvelle ère, c'est peut-être Youhoo.
Eric ?
Pourquoi est-ce qu'on se lance sur un créneau moins global et proposer surtout un réseau social français?
Ah, ben alors déjà, parce que Youhoo, c'est une application qui replace le débat au centre. Donc on mise sur la liberté d'expression. Et le pays, la France, c'est le pays de la liberté d'expression. Donc voilà, là, une réponse courte, efficace et concise. Mais bon, les débats n'ont pas de barrière de pays. Hein, donc.
Mais c'est quoi le but en lançant Youhoo? Vous voulez quoi ? Concrètement.
Donc le but de Youhoo, et après je laisserai parler Anna parce qu'elle a aussi plein de choses à dire, c'est de replacer le débat au centre. Tous les jours sur Youhoo, on propose des défis à nos utilisateurs qui en fait vont répondre à des sujets d'actualité, des sujets de société. Donc en fait sur Youhoo, on s'exprime librement, face caméra, en vidéo, donc on utilise le contenu enrichi hein, qui marche très bien chez Instagram et sur TikTok. Donc c'est-à-dire qu'en fait sur Youhoo, enfin tout le monde peut passer à l'action, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde a son mot à dire. D'accord, et ça c'est important, puisqu'on donne du sens enfin au réseau social, et on permet aussi, suite à une longue période de distanciation sociale, de ressouder les gens. On confronte notre avis aux autres, on affine son jugement, et que pour pouvoir faire évoluer les mentalités ensemble.
Et justement, Anna, c'est quoi les personnes qui vous ont inspiré pour créer ce réseau?
Bah, tout simplement, les personnes qui nous ont inspirés, c'est la cible première qu'on a choisie. C'est la nouvelle génération, la jeune génération. Et pourquoi cette jeune génération? Parce que c'est celle qui porte elle-même le changement, ce sont les futurs consommateurs des marques. C'est celle qui a envie de s'exprimer et qui est prête à passer à l'action. Elle est aussi adepte des réseaux sociaux et des technologies d'aujourd'hui et maîtrise aussi les formats enrichis au mieux, comme les vidéos.
Et justement, vous avez dit que c'est celles qui sont amenées à consommer les marques. Est-ce qu'il y a des marques qui sont présentes aujourd'hui sur
le groupe? Oui, tout à fait. Nous avons un premier client, Clarins, avec qui nous avons fait un test autour de leur objectif de neutralité plastique d'ici à 2025. Et nous avons également des contrats, ça sera la surprise en septembre, avec d'autres marques.
Mais quand vous parlez de ces jeunes personnes-là, vous avez des exemples de ces personnes-là qui vous inspirent pour ce réseau social?
Qui nous inspire en termes de cible?
Oui, de personnes. Oui. Je crois que vous aviez eu Flora Gebali à la soirée de lancement. Donc,
d'accord. Oui, alors en termes plus donc d'influenceurs. Donc, oui, c'est vrai que sur la partie influence. Donc, bon, nous, on essaye vraiment d'être sur de la nano-influence donc, et de l'influence très positive. Donc, on mise plus sur une croissance organique avec nos utilisateurs. Mais en effet, vous avez raison, on a aussi fait appel à des partenariats via des influenceurs. Et donc, avec des influenceurs engagés pour la plupart, comme Flora, comme Élise et Julia du média Fresh. Enfin, en tout cas, les cofondatrices du média. Anna, peut-être que tu peux en parler.
Kim Jelewin autour de la body positivité. En fait, on va aller vraiment chercher des leaders d'opinion qui, eux, défendent eux-mêmes, que ce soit des causes qui leur sont chères et qui vont emmener toute une communauté avec eux pour venir donner leur avis sur You et s'exprimer sur You.
Vous avez des retours depuis le lancement en mai, là, en termes de chiffres?
Tout à fait. Aujourd'hui, bon, ça fait 3 semaines qu'on a lancé. Tout est pourtant. On a aussi une semaine, en fait, de pré-lancement sur une communauté réduite. Donc, on peut compter aujourd'hui à peu près 4000 utilisateurs. Autour de 1700 contenus publics et privés confondus. Donc on est assez contente. C'est vrai que c'est pas facile de lancer une app, on le sait tous, créer une communauté. On a commencé par des liens forts avec des étudiants qui nous ont aidés à co-créer en fait cette application. Aujourd'hui, on a plus de 15 partenariats avec des écoles. Et un des chiffres qui nous a étonnés également, c'est le temps par session. On sait que les utilisateurs passent à peu près de 13 à 20 minutes sur l'application. On est sur un format face caméra et donc les gens sont à l'écoute en fait de ces contenus où les utilisateurs se livrent.
Il y a des followers, des likes, des choses comme ça, comme dans tous les réseaux sociaux ou pas du tout?
Oui, alors nous les followers, on a décidé de ne pas les afficher puisqu'on veut vraiment éviter cette course aux likes à la perfection.
D'accord.
Donc on peut y avoir accès dans nos settings, ou sur notre profil plutôt, mais en revanche, ce n'est pas visible par la communauté. Les likes, c'est plus un support, comme ça. Et ça a aussi inventé une nouvelle fonctionnalité, que sont les stickers. Et les stickers, en fait, sont là pour être attribués à des contenus, pour qualifier et crédibiliser le contenu. C'est-à-dire qu'on offre aussi une nouvelle forme de modération. On permet enfin à la communauté de s'auto-gérer. Et c'est-à-dire que finalement, si j'ai tendance à faire beaucoup de contenu autour de l'écologie, alors sûrement qu'on m'enverra... On attribuera des stickers autour de l'écologie, puisqu'il en existe dans l'app, je vous invite à regarder. Mais si jamais je crée du contenu sensible, abusif, on pourra aussi peut-être m'envoyer un stickers hater, fake news, d'accord? Et finalement, comme ça apparaîtra sur mes contenus, bah, toute la communauté sera au courant, et donc potentiellement que nous, on pourra aussi le voir et bloquer ce contenu. C'est hyper important de parler de la modération dans l'app quand on parle de liberté d'expression.
Vous prenez un peu le contre-pied des réseaux sociaux actuels dans ces cas-là avec la modération.
On essaye, donc on essaye.
La carte du totalitarisme.
On est encore nouveau, mais en tout cas, vraiment, la modération, sachez que c'est au cœur de notre réflexion depuis le début et ça le sera jusqu'à la fin.
C'est pour la Gen Z. Est-ce que moi j'ai le droit d'y aller ou pas?
T'as le droit. Alors du coup, justement, en fait, on s'est rendu compte avec Anna, on a été agréablement surpris qu'il y a de nombreux utilisateurs qui sont issus des tranches d'âge plus âgées, millennials, mais les parents aussi. Les parents des enfants qui sont sur l'app. Et donc c'est assez drôle. Donc on s'est dit, OK, il y a un truc à faire avec ça. Et on est en train, justement, de pouvoir... proposer du contenu plus adapté pour les différentes tranches d'âge avec des sujets qui peuvent potentiellement concerner tout le monde.
Donc vous êtes anti-filtre, tout ça, c'est ça?
Non, il n'y en a pas du tout.
Il n'y en a pas et on reste naturel jusqu'au bout.
Ouais.
Bon, spontané et naturel.
Authentique.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été en plateau avec nous et nous,
merci,
on se retrouve la semaine prochaine. Dion, d'Evdocom, à bientôt.
HebdoCom sur BFM Business.